Bonjour et bienvenue sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade. Alors aujourd'hui, on va parler d'une zone de Garrigues, des Garrigues gardoises, tout un massif que certains peut-être connaissent déjà, qui est le massif du Bois des Lins. Alors pour parler de ce massif, on a avec nous comme invité Émile Bonneau. Bonjour Émile.
Bonjour.
Donc Émile qui va nous présenter un petit peu déjà qu'est-ce que c'est que ce massif. Alors peut-être en quelques mots, tu fais aussi partie d'un collectif.
Effectivement, oui, je fais partie du collectif d'associations pour la défense du Bois des Lins. Donc, qui est là pour la préservation, la conservation de ce milieu naturel. Donc, ce milieu naturel qui, en quelque sorte, est le poumon vert un peu de toutes les communes qui le bordent.
Alors, ce Bois des Lins, Lens ou Lens d'ailleurs ?
Alors, on dit Lens.
On dit Lens, d'accord.
J'expliquerai peut-être un peu pourquoi.
Alors, du coup, où est-ce qu'il se situe ?
Alors, il se situe, on peut dire, on va le situer par rapport à Nîmes. Hein, il se situe à l'ouest, nord-ouest de Nîmes, environ 17 kilomètres. Et puis, au nord de Sommières, environ 8 kilomètres. Et puis, la gare d'Ouninque, à côté de la gare d'Ouninque, au nord de la gare d'Ouninque, à l'ouest de la gare d'Ouninque, et la plaine de Sommières, au sud.
D'accord. Donc c'est un massif d'un seul tenant entre justement cette gare d'Ouninque et le Sommierois.
C'est un massif justement que l'importance de ce massif, sa particularité, dirons-nous, c'est que c'est un massif d'un seul tenant de 20 km et qui justement fait le lien entre le Gardon et le Vidourle.
D'accord. Et donc, au niveau altitude, ça...
Oh, c'est un peu plus de 200 mètres.
D'accord. Alors, du coup, ce Bois des Lins, comment on le caractériserait ?
Alors, c'est un massif qui a une surface de 8600 hectares, hein, qui est assez important quand même. Et donc, il a quand même une flore assez exceptionnelle. Donc on peut le situer totalement partant du Gardon, il part de Maruéjol et Gardon jusqu'à Fontanès. Et donc c'est un couloir écologique et c'est ce qui lui donne son importance.
D'accord. Au niveau, donc on est bien en garrigue sur un sol calcaire.
Ah, c'est un sol calcaire, c'est vraiment de la garrigue, c'est surtout un milieu sur un sol, c'est un massif urgonien. C'est du Barémien supérieur, c'est un massif urgonien.
D'accord, donc il y a plusieurs classements, c'est ça, qui ont...
Plusieurs classements, oui. Alors, le premier classement, qui est un classement, on dit toujours que les Znief ne sont pas très importantes.
Alors, pour illustrer, donc les Znief, c'est les zones naturelles d'intérêt faunistique et floristique.
Floristique.
Ah, j'ai oublié le écologique, effectivement. C'était le E que j'ai oublié du SNIEF.
Exactement. Et donc, il est un SNIEF 2. Alors, sur le massif, il y a deux petites SNIEF 1. Bon, on ne prend en général pas en compte, puisque la totalité est un SNIEF 2. Il est dans la SCAP, la stratégie de création des aires protégées. C'est-à-dire tout un tas de plusieurs, c'est pour rassembler un peu toutes les aires qui se promènent à droite à gauche dans lesquelles il y a une faune un peu particulière. Donc la SCAP a été créée. Il est en zone naturelle, il faut le dire aussi. Il est depuis pas très longtemps dans la trame de la zone verte et bleue du Languedoc-Roussillon.
La trame verte et bleue.
Et bleu, ce sont des couloirs justement dans lesquels peut circuler toute cette faune. Hein, les animaux peuvent circuler. Donc il y a des couloirs qui ont été créés artificiellement, dirons-nous, mais qui existent, dans lesquels les animaux peuvent se déplacer pour se reproduire. Et, voilà. Et puis aussi, il est reconnu dans le SCOT du Gard. Il a été qui lui confirme sa valeur patrimoniale.
Donc le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Donc on voit là que ce Bois des Lins est reconnu sous différentes formes pour sa valeur notamment écologique et naturelle, comme un couloir justement de garrigues qui, entre Gardon et Vidourle, permet justement le déplacement d'espèces, une coupure verte justement dans cet espace du ouest gardois.
Gardois. Et justement, alors je le répète aussi, mais le fait que sur une distance environ, on dit toujours de 20 km, il n'y a pas de coupure vraiment de grande plaine ou d'habitation, de village qui séparerait ce milieu naturel, dirons-nous. Et donc ça permet d'avoir aussi cette faune et cette flore tout à fait particulière. Donc il est caractérisé aussi par une très, très belle diversité de son milieu. Il y a de nombreux ruisseaux intermittents, des anciennes pâtures, des chênerais vertes, des taillis mixtes qui favorisent une flore et une faune remarquables. Ouais. Et ça, c'est très important.
D'accord. Donc du coup, c'est plutôt aujourd'hui un massif quand même boisé. Plutôt taillis de chênes verts, essentiellement.
Oui, alors, c'est-à-dire que le problème du massif d'Hélin, sa particularité, c'est qu'il y a eu des feux très importants. Mmh. Et il sépare aussi, ce massif est séparé en deux dans le boisement, dirons-nous, parce qu'il est beaucoup plus boisé au nord, ouais. Puisque les feux, en général, sont toujours partis de Montagnac. D'accord. Et sont descendus jusqu'à Fontanès, jusqu'au Vidourle.
Donc en gros, peut-être juste pour se situer, les communes qu'il y a au nord du massif du Bois d'Hélin, c'est quelles communes ?
Il y a surtout, on part de Maruéjol les Gardons, après il y a Saint-Bénézé, on descend, et après Moulezan, Crespian, Vic, Fontanès. Voilà, c'est un peu en chronologie. D'accord. Il y a quand même 19 communes qui bordent ce massif, Saint-Mamère de l'autre côté, du côté est. Donc c'est 19 communes, en fait, ce massif correspond à... C'est le poumon... En vert de ces communes-là.
D'accord, ok. Et donc, du coup, des incendies plutôt au sud du massif. De quelles années datent ces...
Ah ben, 60 et... il y en a eu précédents, des feux précédents, il y en a eu bien avant. Mais enfin, les derniers feux que nous connaissons, c'est 76 et 90.
D'accord.
Chaque fois, il y a eu des 2000 hectares de brûlés. C'est quand même des feux très, très importants pour la garrigue. Alors... Le problème du feu, c'est toujours le même souci, c'est-à-dire qu'on retrouve, j'expliquais toujours, je dis qu'on retrouve plus d'arbres remarquables dans le nord et très peu dans le sud, puisque bon, ces feux les ont supprimés. Et comme les feux se reproduisent reviennent tous les 20 ans, ça ne permet pas justement de retrouver ces arbres-là. Mais aussi, dans un autre sens, ça permet d'ouvrir ce milieu. Et justement de retrouver cette faune et cette flore qui est tout à fait exceptionnelle, en particulier dans le sud.
D'accord, donc des milieux qu'on dit ouverts, particulièrement riches, et aussi donc entretenus par ces passages du feu. Donc c'est un peu toute l'ambiguïté du feu qu'on retrouve dans les garrigues. Alors, ce que je propose, c'est qu'on va s'écouter une petite musique et on reviendra un peu plus particulièrement sur l'archéologie du Bois d'Hélin. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need someone. Younger, so much younger than today. I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, and I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. I know that I just need your light. Alors, on est toujours sur Escapade en Garrigue, l'émission du collectif des Garrigues sur Radio Escapade, avec Émile Bonneau, qui nous parle justement du Bois des Lynces, des Garrigues du Bois des Lynces. Alors, ce Bois des Lynces qu'on a situé à l'instant est aussi particulièrement connu pour ses richesses archéologiques. Alors, Émile, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Ah oui, tout à fait. Donc là, c'est vrai qu'il a une richesse très très importante au point de vue archéologique. Hein. D'ailleurs, depuis les origines, puisque ont été découvertes par Monsieur Saturnin Garimond, qui était un autodidacte à la fois, qui était archéologue, naturaliste et paléontologue. En 1932, déjà, il avait découvert des ossements de dinosaures sur ce milieu. Et ce champ, ça porte le nom du champ Garimond, d'ailleurs, ce milieu.
D'accord. Donc c'est le champ où il a découvert ces ossements qui a porté son nom
Qui a porté son nom, qui sont connus mondialement. Et depuis, d'autres espèces ont été découvertes. Un grand nombre, je ne dirai pas le chiffre parce que je ne veux pas faire d'erreur. Mais enfin, des poissons, des amphibiens, des tortues, des lézards, d'autres dinosaures aussi.
D'accord. Alors, est-ce qu'on explique, comment on explique justement la présence de ces ossements de dinosaures sur les bords du Bois des Lynces?
Là, c'est une couche géologique particulière.
D'accord, qui affleure.
Qui affleure et qui, sur lequel il a trouvé cet os dans un premier temps. Il a eu d'ailleurs d'énormes difficultés, vu que c'était un autodidacte,
ouais,
pour qu'il soit reconnu par les scientifiques. Et je crois que le financement a été payé, je crois que par les Américains, pour faire la suite.
Pour faire les fouilles, d'accord.
Exactement. Donc voilà.
Donc ça, c'est dans les années 30,
du coup. C'est dans les années 30, hein, voilà. Et puis après, donc lui, ce monsieur qui était cet autodidacte sur le massif, alors a découvert les vestiges du premier homme qui a habité le massif des Lynces, donc l'homme de Néandertal.
D'accord.
Des vestiges osseux d'un homme de Néandertal, une mâchoire, je crois. Et donc à partir de là, on sait que les premiers hommes, c'était déjà des Néandertaliens.
D'accord. Donc Néandertal, une petite estimation de l'époque.
L'époque, les derniers ont fini 130 000. Donc c'est 30 000 ans, c'était lorsqu'ils ont disparu.
Ils ont disparu il y a 30 000 ans, d'accord. Donc il y a plus de 30 000 ans que le massif du Bois des Lynces s'est occupé.
A été occupé. Alors après, c'est vrai que justement les grands feux, comme je disais tout à l'heure, ont permis de faire un inventaire archéologique assez important, du moins sur la partie sud. Et là, il y a eu un grand nombre de sites archéologiques du néolithique, en particulier de l'époque gallo-romaine aussi, jusqu'au Moyen-Âge.
D'accord. Donc, juste pour les auditeurs, qu'on se situe bien. Donc, le néolithique, c'est la période, on va dire, où les hommes se sédentarisent.
Se sédentarisent.
Donc, c'est il y a à peu près 6000 ans.
Environ, oui.
D'accord.
Peut-être un peu plus tôt. Mais enfin, d'ici là, sur cette région-là, ils sont arrivés il y a 6000 ans. Enfin,
d'accord.
Ils étaient partis 10 000 ans avant.
Et donc, on a des témoignages de cette présence
énormément. Et d'ailleurs, il y a une cavité sépulcrale qui a été découverte, que nous avons découvert avec mon cousin Roland, d'ailleurs, une cavité sépulcrale du néolithique, et il y a une campagne de fouilles.
D'accord.
Qui est abandonnée pour des raisons techniques ou administratives, dirons-nous, puisqu'il y a eu une première campagne qui a été faite, et déjà, il y a eu 13 corps de découvert dans cette cavité.
Donc du coup, juste pour se resituer, effectivement, un massif qui est occupé depuis de très nombreuses dizaines de milliers d'années, et une occupation plus récente, donc au néolithique, où vont s'installer justement les premiers agriculteurs, pasteurs dans ces espaces de garrigues, alors qu'avant c'était plutôt des nomades chasseurs-cueilleurs.
Chasseurs-cueilleurs, oui, c'est ceux qui ils se sont sédentarisés et ils ont commencé à faire les premiers, d'ailleurs, puisque vous allez parler après de l'élevage, c'est au néolithique qu'ils ont commencé à faire de l'élevage.
Voilà, donc la présence de l'élevage commence à s'installer.
Ce milieu qui était aussi. Alors, Enfin, on comprend et pourquoi, parce que c'est lorsqu'on arrive à la fin du massif des Lens, puisque la région de ce sud, après, il y a cette grande plaine qui descend sur Fontanès, et ils étaient restés quand même sur ces massifs.
D'accord.
Qui devaient être malgré tout très hostiles.
Et du coup, est-ce qu'il y a des restes justement de dolmens, menhirs, qui datent d'un peu de cette époque, du néolithique ?
Non, on n'a pas de dolmens, des stèles. Oui, il y a quelques stèles qui ont été découvertes.
D'accord.
Mais des dolmens, chez nous, il n'y en a pas. Il y en a pas une qui ont été découvertes, du moins,
ouais,
jusqu'à
ouais.
aujourd'hui.
Puisqu'on en trouve, par contre, côté Héraulté, on en trouve pas mal au niveau de tout le cos de l'Ortus ou sur, par ici, sur les contreforts des Cévennes, où on trouve un monde.
Et donc, il y a aussi, bien sûr, toute l'époque gallo-romaine. L'époque
oui.
gallo-romaine qui a été très, très importante. Donc, jusque-là, c'est vrai qu'on a trouvé énormément de... Alors, il y a aussi, on n'a pas parlé, il y a des fours à fer qui ont été découverts.
Donc, ouais.
Il y a des fours à fer qui étaient intérieurs.
Des fours qui permettaient de...
Qui permettaient de fabriquer du fer.
D'accord.
À l'époque, du fer. Donc, c'était à peu près, on peut dire... 600 ans avant notre ère, quoi.
Hein. D'accord.
Donc ça, je sais pour dire que ça existait. Et donc le fer était ramassé sur le sol, comme ça.
D'accord.
La fleur, hein. C'était des morceaux des billes qui étaient ferreuses, disons.
D'accord.
Qui étaient fondues, mais le fer était de mauvaise qualité, ça c'est évident.
Ouais. D'accord. Et du coup, ils se servaient peut-être du bois des arbres environnants pour... alimenter ses fours.
Et il se servait bien sûr du bois pour chauffer. Mais les fours étaient, là où ils ont été découverts, les fours étaient, plusieurs fours à fer étaient successivement posés les uns à côté des autres.
Donc, d'accord, donc un signe d'une vraie activité, quoi.
Presque industrielle, on pourrait dire.
L'activité industrielle.
Quelque part.
D'accord.
Quelque part. Mais aussi, après, bon, c'est vrai qu'à l'époque romaine, il y a eu des fours de potiers. Et même, on peut dire que dans le massif des Lens... justement, dans les grottes de Magassar, où ont été découverts ces vestiges de l'homme d'un Néandertal, sont venus les verriers.
D'accord.
Les verriers, il y a eu des verriers dans le massif, des vestiges de fabrication de verre.
De fabrication de verre.
De verre dans ce massif.
Donc, pour la fabrication du verre, il faut faire chauffer à très fort degré. Et du coup, on se servait du déboisement des massifs des garrigues pour justement alimenter les fours à verre, des verreries.
Oui, parce que ça a été justement un gros problème à l'époque des verriers, qui ont été plus ou moins pourchassés.
Mm-hmm.
Parce qu'ils brûlaient. Et je crois qu'ils étaient venus là un peu, ces verriers... parce que justement, ils étaient dans l'Hérault. Et dans l'Hérault, justement, on les pourchassait. Et donc, ils venaient un peu sur ce massif qui était extrêmement boisé à cette époque-là. Et ils ont pu pouvoir...
D'accord. Voilà. Et donc, tu nous parlais de l'époque gallo-romaine. Le massif du Bois des Lens a eu une occupation forte à l'époque gallo-romaine.
Gallo-romaine, oui. Il y a les vestiges encore de... Il y a un oppidum.
Ouais.
L'oppidum de Jouffe sur Montmirat. Donc il y a encore qui a été il y a eu une grosse occupation, mais ça a été occupé pratiquement jusqu'au Moyen Âge et jusque dans les années 1700, on peut dire 1700, puisque sur cet oppidum a été construite une église qui est encore en état de ruine. Puisque les maquisards l'ont brûlé en 1703, justement. Et toute la communauté qui était là sont descendues sur Montmirat, évidemment. Et donc, à partir de là, ça a été abandonné. Mais tout ce plateau sur lequel il y a cet oppidum a été occupé très, très longtemps.
Et du coup, ces fameuses carrières, on parle souvent des carrières du Bois des Lens. Ça date de cette époque-là ?
Ah oui. Jean-Claude Bessac, l'archéologue qui a découvert et fouillé ces carrières-là, ont été découvertes 19 carrières.
D'accord.
Alors 19 carrières, c'est sûr que c'était très favorable par le calcaire, en fait. C'est dû à un calcaire de très très bonne qualité. C'est un massif urgonien. Donc c'est du barémien supérieur, et donc c'est un massif calcaire très très blanc qui servait surtout pour la sculpture, le parement.
D'accord.
Et qui a servi très longtemps à l'époque romaine.
D'accord. Donc pour les villes de Nîmes, de...
Ah ben, jusqu'à Narbonne, jusqu'à Marseille, il a été utilisé. Il a été utilisé.
D'accord. Donc cette roche du bois des lins, c'était particulièrement prisé.
Elle était prisée puisque ce massif, enfin ce calcaire-là, disons, est utilisé encore, puisqu'il y a encore une carrière moderne, disons, ouais. Où on sort des blocs qui partent. Alors, je ne sais pas exactement, mais on sait que il est pur à 99,5%, c'est un carbone de calcium, calcaire très pur.
D'accord.
Et donc, il sert comme charge minérale dans les produits pour l'alimentation humaine et aussi pour la pharmacie.
D'accord, donc, encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui.
D'accord.
Donc, c'est important.
Et donc, du coup, toutes ces carrières datent de l'époque romaine, à peu près, de cette...
Elles ont toutes été exploitées à l'époque romaine et elles, pour certaines, elles ont encore servi jusqu'au Moyen-Âge. Hein, puisque nous, sur Combas, on trouve encore la carrière des pielles où ont été extraits dans les carrières romaines des piles pour l'huile et ainsi de suite.
D'accord. Oui. Donc en fait, on peut se dire que la grandeur des villes romaines du sud était aussi grâce aux exploitations qui se faisaient dans l'arrière-pays, dans les zones de garrigue, comme ici au Bois des Lins.
Bien sûr, puisque les pierres sont... Alors ça a été prouvé que les pierres, par exemple, de la Maison Carrée, de Nîmes, les chapeaux corinthiens, les colonnes cannelées et les frises sont de la carrière des Lins.
D'accord.
Voilà, ça c'est... Donc ça les a servi, mais c'est des pierres qui travaillent très facilement, qui se sculptent très facilement, mais qui est très dure aussi.
Très solide, d'accord.
Très solide. C'est des petites billes. Qui rendent ce calcaire très dur. C'est des petites billes dures en calcaire qui le rendent très dur et qui le favorisent pour faire les chapeaux corinthiens, enfin les colonnes, les chapiteaux corinthiens pour aller fouiller dans les feuilles.
D'accord, faire de la précision.
Ouais.
D'accord. Alors, on s'écoute une petite musique.
Ma frotte contre tes bas, je me ferai angora pour me blottir dans tes bras. Je te jure, je boirai plus que du lait, je n'aime plus la vodka. Moi vouloir être un chat tous les soirs quand je te vois. Moi vouloir être un chat, retrouver sur les gouttières mes copules de litière, me toujours rester à toi. Prendre des minchafouines, me lécher les babines quand viennent tes copines. Moi vouloir être un chat et ne risquer de tes doigts quand le cœur reste sur moi. D'un chien en laisse, tu ne comptes pas sur moi. Pour dormir sur le sofa, je te montrerai de quoi
est capable un gros chat. À ce jeu-là, je suis roi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera toi. Et la souris, ce sera
oui, 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 o
Donc nous sommes avec Émile Bonneau qui nous raconte l'histoire du Bois des Lynces. Alors on a vu l'aspect archéologique, le patrimoine archéologique du Bois des Lynces. Il y a aussi un patrimoine naturel très fort au niveau de sa faune, de sa flore. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots?
Oui. Sur la faune et la flore, donc c'était très important. Il y a des classements.
Voilà, donc au niveau de la flore, on a vu tout à l'heure qu'il y avait. C'était classé avec différents classements, plus ou moins locaux, voire régionaux, pour cette richesse faunistique, floristique. Est-ce qu'on connaît un petit peu quelques espèces, quelques exemples d'espèces patrimoniales qu'on peut retrouver dans ces garrigues?
Oui, on peut noter déjà le comportement, on peut noter que la flore et la faune de ce massif comportent des espèces végétales, animales et végétales remarquables et strictes. C'est-à-dire que pour certaines, elles sont une protection élevée.
D'accord.
Et elles figurent dans la liste des espèces menacées. Donc ça, c'est un premier point. Pour la flore, plusieurs inventaires ont été faits et il y a eu environ 600 plantes qui ont été répertoriées dans ces inventaires. Donc je trouve que déjà c'est assez remarquable.
Donc effectivement, quand on s'intéresse à la richesse de la biodiversité d'un milieu, on regarde plusieurs aspects. On regarde d'un côté la diversité du nombre d'espèces, donc là on a 600 espèces de plantes sur ce massif, mais on regarde aussi ses particularités, quelles espèces particulièrement rares ou peuvent être abritées par ces espaces-là.
Dans cet espace-là, il y a les plantes. Pour les plantes, on peut citer, alors pour ceux qui se connaissent, parce que bon, on va pas citer tout, mais ceux qui sont en particulier pour la SDF, alors la gagée de Granatellie, la graciole officielle, la menthe cerf, enfin il y a tout un tas de fraxinelles, ainsi de suite. Bon, ce sont toutes des plantes qui sont assez qui sont protégées. Ça,
alors pour dire quelques mots là-dessus, donc la gagée est une toute petite plante, toute petite fleur qui sort très tôt en saison. Hein, dès le mois de février, elle fleurit. Alors là, si vous voyez des botanistes à quatre pattes dans le Bois des Lynces, ça se peut qu'ils recherchent la gagée. Qui est vraiment une espèce quand même particulière aux zones de garrigues et aux zones plutôt ouvertes, justement, comme on disait tout à l'heure au début de l'émission, des zones plutôt avec un couvert végétal assez faible. La menthe des cerfs, par contre, va plutôt se retrouver à proximité des mares temporaires, zones où il y a un petit ruisseau.
Humide, un peu plus humide.
Alors, ça peut paraître étrange, justement, le fait de se dire qu'il y a de l'humidité sur ces massifs de garrigues. Mais ça, on va le voir dans quelques instants en parlant de l'hydrologie. Et si on revient un petit peu sur ces espèces de plantes, ce qui est intéressant, c'est finalement ce double aspect du Bois des Lynces, c'est-à-dire qu'il y a un aspect, le nord, qui est plutôt un milieu forestier, où on va trouver plutôt des arbres remarquables, des arbres plus anciens, et le sud, où il y a eu ces passages de feu, donc où on va trouver plutôt des espèces de milieu ouvert, des espèces à très fort caractère méditerranéen.
Oui, et justement, ça se ressent aussi sur la faune aussi, justement. Parce que bon, sur les plantes aussi, mais c'est surtout sur la faune qu'on le retrouve. Justement, on a beaucoup de rapaces, qui sont là parce que ce milieu est ouvert.
Qui viennent chasser.
Les busards cendrés, le Jean Leblanc aussi, qui chasse énormément de serpents.
Voilà, donc le circaète Jean Leblanc.
Jean Leblanc. D'ailleurs, on suit chaque année un couple qui revient.
Alors le circaète Jean Leblanc, c'est un rapace assez grand, qui fait presque 1m70.
1m60, 70, oui. C'est
d'envergure.
Un beau rapace.
Très, très pâle dessous, presque blanc.
Presque blanc, oui.
Et qui, effectivement, a cette particularité-là de chasser des reptiles, et notamment des serpents. Et pour trouver des serpents, il va plutôt aller dans ces milieux ouverts, ces milieux de garrigues rases dans lesquels vivent la couleuvre de Montpellier et autres lézards.
La couleuvre de Montpellier que l'on retrouve aussi sur ce massif. Mais justement, j'en reviens à ce Jean Leblanc, le circaète Jean Leblanc. On a toujours un petit souci, malgré tout, avec les chasseurs, parce qu'on est obligé de leur rappeler qu'ils ne mangent que des serpents. Mmh. Vu son volume, on a toujours l'impression qu'il va leur prendre peut-être un petit lapin. Je vais là.
Voilà. Effectivement, des rapaces, il y en existe plusieurs dans les zones de garrigues, dont ce circaète qui, malgré sa taille, ne prend que des reptiles, alors qu'on pourrait effectivement s'attendre à ce que...
C'est ça, voilà, il est assez impressionnant.
Ce n'est pas un voleur de poules. Hein,
c'est, pas du tout. Et bon, c'est vrai qu'il y a des grands ducs, et ainsi de suite, et les oiseaux aussi, les pipites rousselines, les hirondelles rousselines. Alors, les hirondelles rousselines, on en a depuis plusieurs années. Et donc, la dernière année, l'année précédente, nous n'en avons point eu.
D'accord.
Il y avait 3 nids que nous surveillons. Sur lesquels chaque année on avait des couples qui venaient. Et l'année précédente, nous n'avons point eu. Donc on a peut-être une certaine inquiétude de ce côté-là.
Sachant que l'hirondelle rousseline est une espèce d'hirondelle, hein, mais qui vit vraiment dans les milieux plutôt très secs. C'est l'espagnol hein, chez les hirondelles. Mmh. Et il y en a quelques couples qui vivent effectivement dans le sud méditerranéen de la France, dont ce massif du Bois des Lynces. Alors, est-ce que c'est lié justement à des problématiques de fermeture du milieu, peut-être ?
Ou
de dérangement.
Pas de dérangement, mais parce que bon, le milieu là où le son, ça n'a pas changé, le milieu n'a pas changé. Simplement, peut-être là où elles ont migré, sur leur migration, peut-être il y a eu un souci là-bas. Donc on va voir cette année.
C'est sûr qu'on était sur déjà un nombre de couples très très limité.
Très limité, très limité. On surveillait ça comme la prunelle de nos yeux, on va dire. Et donc voilà, on a aussi des hirondelles de rocher aussi, dans une carrière de bonne, une carrière semi-souterraine, où elles sont, elles restent là toute l'année, dans cette carrière-là. Donc c'est important. Toutes ces hirondelles sont bien sûr protégées, elles sont dans la catégorie des animaux.
Un peu patrimoniaux, oui. Et donc, tu parlais aussi peut-être des chauves-souris, appelle les chiroptères dans le langage scientifique.
Les chiroptères, tout à fait. Alors, sur ce massif des Lynces, nous avions 14 espèces connues, qui étaient connues depuis très longtemps. Et donc, on a fait faire en 2012 un inventaire, en fait, par des spécialistes, puisque personne, il faut être vraiment un spécialiste.
Il faut connaître,
oui. Même pour les attraper, on n'a pas le droit de les attraper. Et donc, sur le massif des Lynces, on a trouvé 4 nouvelles espèces.
D'accord.
Et donc, ce qui porte à 18 le nombre d'espèces sur le massif. Et on se glorifie un peu parce qu'on dit toujours qu'on a plus d'espèces de chiroptères que les gorges du Gardon.
D'accord. Effectivement, c'est la petite concurrence entre les différents espaces de garrigues.
Nous avons été aidés justement et soutenus par les gorges du Gardon pour faire cette...
Effectivement, la richesse en chauve-souris est assez méconnue, mais est une des particularités de nos zones de garrigues et est probablement liée au fait qu'on est sur des milieux dits karstiques, donc liés à ce calcaire qui crée tout un tas d'avennes, de grottes, etc., qui sont autant d'abris pour les chauves-souris. Peut-être deux mots, justement, en parlant de ce milieu karstique très particulier aux garrigues, sur l'hydrologie, comment fonctionne l'eau dans ces espaces du Bois des Lynces ?
Oui, ben, l'hydrologie, c'est vrai que c'est un milieu très sec, très sec, mais c'est un milieu qui aussi, il y a plusieurs millions d'années, a été recouvert par la mer. Donc la mer, en se retirant aussi, puisqu'il y a eu des fluctuations, a créé des cavités dans ce massif karstique, ainsi de suite. Et donc il y a des cavités très très importantes qui créent des réserves d'eau très très importantes. Le massif du Lynces, il est alimenté en eau, par une partie des pertes du Gardon, parce qu'il faut savoir que le fait qu'il démarre du Gardon, des pertes du Gardon qui viennent dans le massif, et aussi par tout un tas de ruisseaux qui sont des ruisseaux ponctuels, qui coulent ponctuellement, mais qui alimentent aussi, puisqu'on retrouve dans les ruisseaux, on retrouve des failles où l'eau ne va pas plus loin. Donc l'eau descend, l'eau n'est pas filtrée, sur des massifs comme ça, elle court, elle passe, c'est du gruyère carrément, elle s'infiltre. C'est pour ça qu'on est un peu soucieux de tout ce qui pourrait éventuellement créer une pollution sur ce massif, parce que la pollution serait irréversible. Parce que simplement de l'huile qui s'écoulerait dans ce massif rentrerait dans ces cavités, et puis ce serait plus possible de nettoyer. Donc pour des milliers de personnes qui dépendent de ce massif. Donc l'eau, c'est
un sujet particulièrement important pour l'avenir du bois des Linces.
Très, très, très important. Et justement, notre collectif est très soucieux justement de la protection de ce massif, la faune et la flore, certes, mais aussi pour l'eau.
La ressource.
La ressource.
On s'écoute une petite musique ? Alors donc on est sur Escapade en Garrigue avec Émile Bonneau qui nous parle du bois des Lens. Alors sur ce bois des Lens, on a vu le patrimoine naturel, la faune, la flore, on a vu le patrimoine archéologique, oui. Mais il y a aussi un petit patrimoine, alors on le nomme petit, mais oui. Il peut avoir pourtant une grande importance.
Il a eu beaucoup d'importance.
Qu'en est-il alors?
Sur ce massif, on retrouve bien évidemment tout ce que l'on retrouve aussi dans nos garrigues, c'est-à-dire ces capitels, ces murailles. Et je suis toujours étonné, je dois le dire, puisque je promène pas mal dans cette garrigue, de trouver des murs très très larges, de grandes épaisseurs. Et je me demande qui a charrié, transporté toutes ces pierres, parce que c'est énorme. Et bien sûr, ces murailles ne sont pas là pour le plaisir, mais c'était par nécessité, il fallait bien mettre les pierres quelque part, puisqu'elles ont été extraites du sol. Et justement, c'est toute cette importance pour que ça devienne cultivable. Mais on retrouve aussi, il y a les fours à chaud, le charbon, ils ont charbonné aussi dans toutes nos garrigues, on retrouve un peu toujours, mais en particulier, par exemple, pour les fours à chaud, on en trouve beaucoup.
D'accord.
Et c'est dû justement au calcaire.
Alors peut-être quelques mots pour les auditeurs sur qu'est-ce que c'est qu'un four à chaux, comment on fabrique la chaux.
La chaux, les pierres sont ramassées en surface, bien sûr, mais avant cela, on a créé une sorte de fosse et avec une sorte de bâti en pierre, mais pierre sèche, qui est ronde et qui a une profondeur environ de 2 mètres. Et on remplissait ce volume de pierre tout en essayant de créer une sorte de voûte comme ça pour pouvoir mettre le bois dessous. Et puis on mettait du bois et il brûlait pendant 3, 4, 5 jours et nuits jusqu'à ce que la chaux soit calcinée. Et puis on avait de la chaux vive, qu'on était obligé d'éteindre pour l'utiliser. La chaux vive était utilisée aussi pour différentes choses, pour désinfecter aussi, ainsi de suite. La chaux éteinte était pour bâtir en particulier.
D'accord.
Beaucoup utilisée.
Donc on retrouve ces traces justement de fours à chaux, de charbonnières dans le bois des Lens.
On retrouve toutes ces traces qui permettent de dire et d'affirmer que ce massif, nos garrigues ont été très très occupées. Très occupées.
Donc du coup, des générations et des générations d'hommes et de femmes qui ont déplacé les cailloux sur cette terre rude pour essayer d'en cultiver des petites zones.
Oui, et on dit hommes et femmes, et je dirais même les enfants. Parce que lorsqu'on dit comme nous, chez nous, on emploie le mot « espeyriguer », c'est-à-dire « épierrer », et même les enfants étaient mis à contribution avec des petits paniers sur leur tête et sortaient les petits trucs, les petites pierres pour les amener. On mettait des grosses pierres dans les murailles, une des grosses pierres de chaque côté, mais toutes les petites pierres étaient chargées au milieu. Donc tous les enfants participaient aussi.
D'accord.
Et aussi, alors nous on peut dire ça parce que sur la partie sud Combasse, on a deux pièges à loups.
Des pièges à loups.
Pièges à loups, fosses à loups.
D'accord.
C'est des trous qui sont construits un peu comme un puits, mais plus large en bas, beaucoup plus large en bas et plus étroit en haut. Et donc, c'est l'époque où il y avait des loups sur le massif des Lens.
Donc, il faut se replacer à une autre époque où le massif des Lens devait être une zone beaucoup plus ouverte avec des troupeaux sûrement sur ces zones-là et puis des loups aussi qui étaient craints du coup et que d'où la présence de ces pièges à loups.
De ces pièges à loups, puisque c'était à l'époque où les personnes n'avaient pas le droit de détenir des armes, donc ils faisaient des pièges à loups, peut-être empoisonnés, en fait, ou des pièges en fer. Mais par exemple, on a un témoignage sur des écrits, une dame en l'an 2 de la Révolution, à Combasse, qui est sortie du village et qui a trouvé une portée de louveteaux.
D'accord.
Et donc, elle a appelé le garde champêtre qui est venu, qui les a éliminés.
D'accord.
Et puis, plus tard, dans les années 1830 ou 33, après, là, il y a eu vraiment des battues très importantes où il y a eu plusieurs centaines de personnes, plusieurs communes qui se regroupaient chaque fois pour pouvoir éliminer les loups. Et en 1840 encore, ça a recommencé parce que les loups encore faisaient des ravages. Donc il y avait vraiment des loups. Et on pense que c'est vrai, c'était très favorable puisque ce massif étant un couloir ou se déplaçaient les loups, certainement, puisqu'ils traversaient le Gardon, et puis c'était facile de rejoindre les garrigues de l'Hérault, enfin, la montagne noire, et ainsi de suite. Donc, c'était favorable, et il y en avait à ce moment-là.
D'accord. Donc on voit que le petit patrimoine nous raconte un peu l'histoire des habitants des Garrigues. Alors justement, pour des personnes qui souhaiteraient découvrir, se balader dans le Bois des Lens, quel lieu tu conseillerais, quel site tu inviterais à découvrir en premier lieu ?
En premier lieu, je pense qu'il est... Puisqu'on a parlé justement de ces carrières, 19 carrières, c'est très très important. Et donc je dirais peut-être c'est la carrière de Mathieu qui se trouve en passant par Fons.
D'accord.
Et puis il y a une route qui, enfin, on peut l'indiquer, ça peut se trouver, mais c'est la carrière de Mathieu.
La carrière de Mathieu
qui a été fouillée par Jean-Claude Bessac, mais qui est encore très vite. On voit vraiment l'exploitation.
D'accord.
C'est vraiment très très important. Après, ce qu'il y a à visiter, c'est l'oppidum, l'oppidum de Jouffe aussi, sur Montmirat. Ça, c'est aussi à visiter parce que bon, il y a encore ces vestiges. Et alors, il n'y a qu'un petit souci, c'est que quelquefois, il y a les taureaux. Donc, il faut se renseigner.
D'accord.
Il faut se renseigner.
Pour pas avoir une.
Autrement, il y a des cartos.
D'accord.
Cartos guides qui sont très très bien faits. En particulier celui de la gare d'Ouninque. Où il y a une grande partie du massif des Lens, de balades, ainsi de suite. On lit qu'il y a 190 km à marcher, donc ça fait quand même du chemin.
Donc les cartes aux guides qui sont éditées notamment par le Conseil Général du Gard.
Exactement.
En partenariat avec les communautés de communes. Donc il existe un carte aux guides plutôt côté Saumirois et un autre carte aux guides côté donc de la communauté de communes de Lens-Gardonnais. Donc, qui prend une grande partie de ce massif du Bois des Lens. Nous vous invitons vraiment à vous rapprocher soit de vos mairies, soit des offices de tourisme ou de la communauté de communes pour vous procurer ce carto guide qui vous proposera énormément d'idées de balades et de découvertes de ce bois.
Et donc, sur Combas, on va ouvrir. Il est pratiquement terminé puisqu'il n'a pas encore été... un sentier de découverte donc, qui est fait en particulier pour les personnes avec des enfants, où on va pouvoir découvrir des cabanes, des murs, des charbonnières, enfin tout un tas de trucs, un four à chaud, ainsi de suite. Et donc il va être inauguré au printemps. Le printemps s'avance, il ne l'est pas fait, mais il est terminé.
Donc très prochainement.
Très prochainement, mais alors il faut se renseigner à la mairie de Combas pour avoir le petit... Mais c'est à peu près 2 heures.
D'accord.
Minimum, 1h30 grosso modo.
Eh bien, merci Émile. En tout cas, ça nous donne bien envie d'aller découvrir ce massif du Bois des Lens. Et on va se quitter en musique.
Merci à toi.
Shiver in the dark, it's raining in the park, but meantime, sound of the river, you stop and you hold everything. A band is blowing Dixie, double fall time. You feel alright when you hear the music ring. Step inside, but you don't see too many faces. Coming in out of the rain, they hear the jazz go down. Competition in other places, but the horns, they blowing that sound. Way on down south. Way on down south, London town. You check out Guitar George. He knows all the chords. Money
playing strictly rhythm. He doesn't want to make it cry or sing. If then an old guitar is all he can afford, when he gets up under the lights, play his thing. And Harry doesn't mind if he doesn't make the scene. He's got a daytime job, he's doing alright. He can play the honky-tonk like anything, saving it up Friday night. With the Sultans, with the Sultans of swing. In their platform souls. They don't give a damn about any trumpet playing band. It ain't what they call rock and roll. And the Sultans, yeah, the Sultans that play Creole.
We are the Sultans. We are the Sultans.